Mais Que le nom du Seigneur soit béni. Alors que l'Esprit de Dieu agit dans nos cœurs, le Seigneur veut encore nous parler par sa parole. Il nous a laissé sa parole, qui est la vérité, pour nous conduire sur le chemin du salut. Sa parole est la vérité. Que cette parole nous sanctifie maintenant et qu'elle nous fasse du bien. Qu'elle nous attire toujours plus près du Seigneur. Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on voit ensemble ce matin encore un sujet très important pour tout chrétien, pour toute personne, car il nous faut toujours avancer de victoire en victoire dans l'œuvre du Seigneur. Et s'il y a une victoire que nous devons remporter dans notre vie chrétienne, car cette victoire est indispensable pour pouvoir vivre une vie chrétienne heureuse et épanouie. Chrétien a des ennemis aussi. La Bible dit que le chrétien a trois ennemis: le diable, le monde et la chair. Donc notre chair rebelle, notre nature humaine rebelle, qui ne veut pas se soumettre à Dieu. Nous sommes donc dans un combat, nous devons le réaliser. Et le chrétien, tout chrétien, a trois ennemis. Mais ce matin, j'aimerais parler sur un ennemi tout particulier qui s'attache à notre nature rebelle. Et cet ennemi-là, c'est l'amertume. Et j'aimerais parler sur ce géant de l'amertume, sur ce poison de l'amertume qui détruit des vies. C'est un véritable poison qui détruit des vies. C'est un géant aussi qui détruit beaucoup de vies. Que nous soyons inconvertis ou convertis, cet ennemi est toujours là. Et nous devons veiller à cela et avoir la victoire sur cet ennemi. Car si nous ne détruisons pas ce géant de l'amertume, c'est ce géant qui nous détruira. Mais gloire au Seigneur, la parole de Dieu nous montre comment nous pouvons être vainqueurs de ce géant. Amen. Nous pouvons être vainqueurs de ce géant. Et pour cela, j'aimerais qu'on lise quelques textes maintenant. Un premier texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, voici ce que l'apôtre Paul dit au verset déjà 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, regardez voir ici, que toute amertume, animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que Dieu bénisse sa parole. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie disparaissent du milieu de vous. Vous savez, l'amertume, c'est quelque chose qui engendre beaucoup d'autres choses. L'amertume engendre l'animosité. L'animosité, la colère, la clameur, la calomnie. Et bien souvent, beaucoup de colère, de haine, beaucoup de toutes ces choses, ces animosités, ont comme pour racine cette amertume qui est là. Et nous ne pouvons pas vivre avec l'amertume contre qui que ce soit. Nous devons être continuellement purifiés de cela. Et cela, c'est tout le temps de notre vie chrétienne. Car tout le temps de notre vie chrétienne, nous aurons toujours des difficultés, soit dans la famille, soit dans l'église, soit dans le monde. Il y aura toujours des problèmes, des difficultés. Et si nous ne savons pas résoudre ce problème de l'amertume, cette amertume nous tuera, nous détruira et nous empêchera de vivre véritablement une vie chrétienne authentique. C'est donc là un géant, mes amis, que nous devons détruire dans notre vie chrétienne. C'est un poison qui peut vous empoisonner totalement et vous paralyser dans votre vie spirituelle. Nous ne pouvons pas nous permettre de garder cela. L'apôtre le dit bien, que toute amertume et tout cela disparaissent du milieu de vous. Ça doit disparaître. Pour vous comme pour moi. Chacun d'entre nous, nous sommes concernés ici. C'est pourquoi nous devons veiller à cela. Mais comment détruire ce géant de l'amertume qui détruit des chrétiens, qui détruit des églises et qui détruit aussi beaucoup de personnes dans le monde qui ne sont pas converties. Allez dans beaucoup de maisons psychiatriques, bien souvent, lorsque vous grattez un petit peu, les personnes qui ont des problèmes mentalement, les psychiatres eux-mêmes le disent, il y a un problème, profond problème d'amertume, de ressentiment, de non-pardon dans les cœurs. C'est pourquoi, cela étant gardé continuellement pendant des mois ou des années, une telle attitude brise la personne. J'allais dire la déséquilibre profondément. C'est pourquoi nous ne pouvons garder cela. Et toute notre vie chrétienne, nous aurons à vaincre ce géant. Nous allons voir maintenant les 6 conséquences de l'amertume. Et ensuite, nous verrons comment sortir, comment détruire ce géant. Mais j'aimerais vous donner, selon la parole de Dieu, 6 conséquences de l'amertume. Nous pouvons dire, oh, c'est rien du tout. Tout le monde a cela. Vous savez, bien souvent, les gens, ils se justifient toujours. Oh, mais voyez-vous, on est tous comme ça. Moi, c'était dans ma famille, mon grand-père était comme ça. Moi, c'était dans ma famille, mais c'est ma grand-mère qui était comme ça. Ou la mère était comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est dans la famille. On est tous comme ça. Qu'est-ce que vous voulez changer? Non, bien souvent, une telle attitude révèle que nous voulons tout simplement nous justifier. Mais il y a de graves conséquences à l'amertume, mes amis, selon la parole de Dieu. Voyons 6 conséquences maintenant. La première conséquence de l'amertume est celle-ci. Vous pouvez noter si vous le voulez. Première conséquence de l'amertume, elle amoindrit notre résistance au diable. Un point très important, elle amoindrit notre résistance au diable. Éphésiens, chapitre 4, verset 27. Verset 4, verset 27. Verset 26 déjà, il est dit. si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Voyez-vous ici, la parole est claire. L'amertume qui engendre la colère, bien souvent, donne accès au diable et amoindrit notre résistance au diable. Autrement dit, si nous nourrissons de l'amertume en nous, nous ne pourrons pas résister au diable comme il le faudrait. Puisque le diable, lui, est plein d'amertume. Ça vient de qui tout cela ? Ça vient du diable. Et nous ne pouvons nous permettre d'accepter ce qui vient de l'ennemi, n'est-ce pas vrai ? Nous devons réaliser que cela vient de l'ennemi. Et si nous acceptons cette amertume, alors nous ne pourrons plus résister au diable comme il le faudrait. Nous donnons accès au diable, c'est-à-dire qu'il nous opprime, qu'il peut nous attaquer facilement, nous déséquilibrer, nous faire chuter même. Il a comme un accès à nous, en nous, et nous avons des combats inutiles à cause de cette amertume qui est là. Donc un chrétien qui nourrit une certaine amertume en lui, première conséquence, il ne peut plus résister au diable. Il ne peut plus résister au diable. Parce qu'il donne accès à l'ennemi. Et l'oppression devient extérieure. Alors, première conséquence, ça amoindrit notre résistance au diable. Deuxième conséquence maintenant, l'amertume attriste le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 30, on l'a lu tout à l'heure, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Et juste un peu avant, il est dit, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. » N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Quand nous nourrissons de l'amertume en nous, avec ce désir, et dans l'amertume, il y a cette rancœur, cette animosité, et cet esprit un peu de revanche, de vengeance. Même si on ne se venge pas ouvertement, mais par notre attitude, on veut faire souffrir l'autre. En ayant une certaine attitude qui fait de la peine à l'autre. Nous le savons, nous faisons de la peine à l'autre. Et nous prenons un malin plaisir à cela. On sait, je sais qu'en faisant ça, l'autre, ça lui fait de la peine. Eh bien, c'est ça. Très bien, d'accord. Ça, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Je veux que par mon attitude, l'autre souffre. C'est une attitude très dangereuse. Car avant de faire du mal aux autres, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Car avant de détruire l'autre, nous nous détruisons nous-mêmes, n'est-ce pas vrai ? Deuxième conséquence, n'attristez pas le Saint-Esprit. L'amertume en nous attriste le Saint-Esprit. Vous perdez votre joie chrétienne. Je n'ai jamais vu un chrétien pleinement heureux, épanoui avec de l'amertume dans son cœur. Ça n'existe pas. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que cette amertume qui est un refus de pardonner attriste le Saint-Esprit qui, lui, veut toujours apporter le pardon à l'autre, n'est-ce pas vrai ? Qui veut toujours apporter le pardon à celui qui vous a offensé. Le Saint-Esprit est là pour cela. Donc, deuxième conséquence, si nous nourrissons de l'amertume, nous attristons le Saint-Esprit et nous perdons notre joie. Non seulement notre joie, mais notre force aussi. Car notre force se trouve dans le Saint-Esprit. Amen. Notre force se trouve dans le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est attristé en nous, nous n'avons plus de force. Mais un chrétien fort, un chrétien joyeux, c'est un chrétien fort. Et un chrétien fort, c'est un chrétien qui refuse l'amertume dans son cœur, sous quelque forme que ce soit. Nous ne devons jamais accepter de telles pensées. Ah, mais vous ne vous rendez pas compte ce qu'il m'a fait. Vous ne vous rendez pas compte, c'est bien beau ce que vous dites. Vous ne vous rendez pas compte le mal qu'il m'a fait. Ah, on ne s'en rend peut-être pas compte. Mais il y a une chose que tu dois réaliser. Te rends-tu compte, toi, du mal que tu as fait au Seigneur? Toi, par ton péché, par ta rébellion, te rends-tu compte du mal que tu as fait au Seigneur et que tu fais au Seigneur? Le mal que tu fais au Seigneur n'est rien à côté de le mal que l'autre te fait. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Quand nous comprenons cela, alors, nous disons, Seigneur, merci de m'avoir tant pardonné. En retour, je veux aussi pardonner à celui qui m'a fait du mal. Amen. Celui qui nourrit de l'amertume dans son cœur révèle finalement qu'il ne comprend pas, qu'il n'a pas réalisé la grandeur du pardon de Dieu à son égard. C'est cela, finalement, c'est cela. On a oublié le pardon de nos péchés. Combien nous avons été ennemis de Dieu. Combien nos péchés ont offensé la sainteté et l'amour de Dieu. Quand nous comprenons cela, alors, lorsque l'amertume essaye d'entrer, lorsque le géant essaye de frapper à la porte de ton cœur, tu dois lui dire « Arrière de moi ! Arrière de moi ! Jésus m'a pardonné mes nombreux péchés, comment ne pardonnerai-je pas à celui qui m'a fait du mal ? Arrière de moi ! » Deuxième conséquence, l'amertume attriste le Saint-Esprit. C'est pourquoi quelqu'un qui a de l'amertume dans son cœur, ça se voit jusque dans son sur son visage. C'est par la tristesse. Ça se voit sur le visage. C'est pourquoi nous devons absolument être purifiés continuellement de cette amertume. Amen. En pardonnant, comme Dieu nous a pardonné. Alléluia. Il vaut mieux passer pour un pauvre type. Il vaut mieux passer pour celui qui a tort. Mais être au moins, être libéré de ce sentiment de culpabilité qui est là, qui nous tenaille et qui nous détruit. Il vaut mieux passer pour un pauvre type et être libre que d'avoir raison et être un esclave. Il vaut mieux. Moi, je préfère passer pour un pauvre type et être libre. Quel est votre choix? N'attristons pas le Saint-Esprit. L'amertume est là, nous devons veiller à cela, mes amis. Chacun d'entre nous, n'est-ce pas vrai? C'est un géant qui veut détruire. Troisième conséquence de l'amertume dans une vie, elle est un obstacle à l'adoration. Je répète, elle est un obstacle à l'adoration. Vous ne pouvez pas vraiment adorer lorsqu'il y a de l'amertume dans votre cœur, n'est-ce pas vrai? Vous ne pouvez pas. Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24. Notez cette référence importante. Pourquoi est-ce que certains n'arrivent pas à vraiment adorer le Seigneur? Parce que bien souvent, cette amertume est là et nous devons nous en débarrasser. Matthieu 5, versets 23 et 24. Voici ce que le Seigneur dit. Je vais lire ce passage qui est important. Et si donc tu présentes ton offrande à l'autel, voyez-vous, il est ici, c'est l'exemple donc de celui qui vient adorer. Si tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin. Alors voyez-vous ici, l'amertume, c'est quelque chose qui nous empêche. C'est un obstacle à l'adoration. Quand nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec un autre frère ou avec un autre membre de la famille même, parce que l'amertume ne détruit pas seulement des églises, mais des familles sont détruites. Quand nous savons qu'il y a quelque chose, et là, attention, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est pas quelque chose que nous avons dans notre pensée, n'est-ce pas? On pense que l'autre pense. Non, c'est que, là, c'est quelque chose de réel. Donc, il est dit ici, si tu te deviens, donc, va te réconcilier. Donc, c'est quelque chose que, c'est un problème qui est visible. Il y a une rupture visible. Il y a quelque chose qui est visible, mais qui n'est pas réglé. C'est pas, vous voyez, sur des suppositions, mais c'est sur des faits. Il y a une rupture de communion. Il y a un problème que vous savez vous-même et que l'autre sait aussi. Vous comprenez? Alors, quand c'est comme cela, nous ne pouvons pas laisser la chose comme cela. Avant d'aller porter son offrande et son adoration, nous devons nous purifier et pardonner. Amen. Alléluia. Si l'autre refuse, c'est sa responsabilité. Mais ma responsabilité est de lui pardonner le mal qu'il m'a fait. Amen. Et s'il a fait du mal devant Dieu, Dieu s'occupera de lui. Mais quant au mal que cette personne m'a fait, je dois pardonner. Sinon, je ne serai pas pardonné par Dieu non plus. Voyez-vous, c'est très important. Donc, troisième conséquence. Elle est un obstacle à l'adoration, à la prière. Quatrième conséquence. Elle divise et détruit le foyer. L'amertume détruit et divise un foyer. Et on pourrait parler aussi, bien sûr, de l'Église. Mais ça commence bien souvent dans le foyer, l'amertume. Comme on se connaît bien dans une famille, n'est-ce pas? On connaît non seulement les qualités, mais on connaît un peu trop les défauts de l'autre aussi. Et alors, si nous ne faisons pas attention, nous allons arriver à un tel point où nous ne voyons que les défauts de l'autre et plus aucune qualité, plus rien du tout. Donc la nécessité de pardonner est d'autant plus urgente dans la famille parce qu'on vit de près, n'est-ce pas vrai? C'est dans la famille. Et là, j'ai pris l'exemple, il y a l'exemple dans Genèse chapitre 27 verset 34 et Genèse 28, il y a l'histoire de Jacob et d'Ésaü. Jacob et Ésaü dans l'Ancien Testament. Il y a eu des histoires entre eux. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette histoire, mais ces deux frères ont eu des histoires. Il est vrai que Jacob a trompé son frère Ésaü. Et il est dit à un moment donné dans Genèse 27-34, Ésaü poussa de forts cris pleins d'amertume parce que Jacob l'avait trompé. Plein d'amertume. Et à partir de ce moment-là, Ésaü a eu non seulement de l'amertume, mais quand on lit, lisez Genèse 27, 28, vous verrez que l'amertume ne s'arrête pas là. Il est dit qu'il avait des mauvaises pensées et il était même décidé à tuer son frère. Et alors, c'est là que Jacob, quand il a appris que son frère voulait le tuer, il a décidé de partir. Il est parti au moins 14 années chez son oncle Laban, pensant que les choses allaient se calmer au bout de 14 ans. Mais il a réalisé une chose, c'est que même au bout de 14 ans, rien n'a été réglé. Les années ne règlent pas les problèmes, mes amis. Bien souvent, nous disons, oh, avec les années, ça passera. Non, mon ami. Bien souvent, avec les années, les choses s'aggravent. Lorsque nous ne pardonnons une offense qui nous est faite, le temps n'efface rien du tout. Au contraire, le temps aggrave la situation. Alors jusqu'au jour où Jacob, bien sûr, Jacob a trompé son frère Ésaü, mais Jacob était aussi fautif devant Dieu. Devant Dieu. Et c'est ce qu'il n'avait pas réalisé. C'est pourquoi Dieu l'a coincé. Et avant d'aller rencontrer son frère au bout de 14 ans, il a eu une rencontre avec Dieu. Un ange est venu l'arrêter sur son chemin. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange a frappé à sa hanche. Et Jacob est devenu boiteux à partir de ce jour-là. Lui qui était fort, lui qui était sûr de lui-même, d'un seul coup, il est devenu boiteux.
C'est comme si Dieu voulait lui dire, « Jacob, tu as été une tête dure jusqu'à présent. Tu as été un rebelle. Mais je suis obligé de te frapper à la hanche maintenant pour briser ton orgueil et ta rébellion. Sinon, je ne peux rien faire avec toi. » Et là, Jacob a dit à l'ange, « Je ne te laisserai point que tu m'aies béni. » Et l'ange lui a dit, « Quel est ton nom ?» Jacob a dit, « Mon nom est Jacob. » Et ce mot Jacob voulait dire « trompeur ». Celui qui supplante, qui trompe l'autre. Et l'ange lui a dit, « À partir de maintenant, ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. » Qui voulait dire « vainqueur ». Vainqueur de Dieu. C'est comme si Dieu lui disait, « À partir de maintenant, tu as la victoire sur ta tromperie, ta tricherie, sur ta nature rebelle. Maintenant, tu peux avoir la victoire parce que tu réalises ta faiblesse, parce que maintenant j'ai fait de toi un boiteux. » Mes amis, bien souvent Dieu doit nous affaiblir parce que nous nous croyons trop forts. Nous pensons que nous sommes forts, comme Jacob, mais nous ne faisons que des bêtises. Et Dieu, bien souvent, doit nous affaiblir, doit permettre des circonstances dans notre vie qui nous bloquent, qui nous coincent, qui nous affaiblissent. Nous sommes incapables d'aller nulle part. Dieu permet cela dans nos vies, mes amis. C'est pourquoi l'épreuve est indispensable. L'épreuve est indispensable pour que nous réalisions notre faiblesse, notre néant, notre rébellion. Si Dieu nous laissait faire tel qu'on voulait, on serait tous perdus, n'est-ce pas vrai? On serait tous perdus depuis longtemps. Mais Dieu, dans son amour, nous aime. Alléluia! Il nous aime. Et il permet des épreuves qui brisent notre orgueil, afin que nous puissions avoir la bonne attitude envers lui et envers notre prochain ou les membres de notre famille. Gloire à Dieu! Cinquième conséquence de l'amertume, elle détruit notre unité. L'amertume détruit la communion et l'unité dans la famille et dans l'Église. Hébreux 12, 14, 15. Hébreux 12, 14, 15. Voici ce qu'il est dit, un passage très important. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Voyez-vous, l'amertume ne reste pas seulement dans votre cœur. L'amertume est un poison qui se communique aux autres. L'amertume est contagieuse. Une personne qui est remplie d'amertume la colporte autour d'elle. Et il dit ici, si nous n'enlevons pas cette racine d'amertume, ça produira des troubles et plusieurs en seront infectés. C'est-à-dire que ce mal se répandra autour de nous, de nos bien-aimés, et ce sera la division, ce sera la rupture et ce sera la destruction. Voyez-vous ce que produit l'amertume ? L'amertume, c'est quelque chose de très grave qui pollue les autres. Ça n'en reste jamais à soi-même. C'est un mal qui se propage et qui peut détruire et qui détruit. Une autre conséquence, l'amertume engendre la dépression. Genèse chapitre 4, verset 5. C'est Cain, vous connaissez l'histoire de Cain et d'Abel, n'est-ce pas ? Cain et Abel. Cain, il a été dépressif, vous ne savez pas pourquoi ? Parce qu'il a gardé de l'amertume dans son cœur contre son frère Abel. L'amertume nous conduit jusqu'à la dépression. Genèse chapitre 4, verset 5. Voici ce qu'il est dit. Chapitre 4, verset 5. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn, voici au verset 5, fut très irrité. Autrement dit, la colère est entrée en lui, l'amertume, le non-pardon, la rancœur est entrée en lui, et son visage fut abattu. À partir du moment où il a laissé entrer l'amertume, son visage a changé. La dépression est venue. L'amertume engendre la dépression, le découragement. Et là, ça a été plus loin. Ça a été plus loin, n'est-ce pas? Nous savons que Caïn, il n'est pas seulement resté à la dépression. Quelques versets après, nous voyons qu'il a tué son frère. Et beaucoup de crimes aujourd'hui, vous le savez, ont pour origine cette haine, cette amertume dans le cœur, contre qui que ce soit. Et ça peut conduire très très loin. L'amertume engendre la dépression, le découragement. On ne s'en sort plus. Tout le temps déprimé, tout le temps déprimé. Voilà une conséquence de l'amertume. Ça nous coûte cher. Vous êtes d'accord avec moi? On peut payer des milliers et des milliers de francs pour voir des spécialistes, pour être délivré de sa dépression. Sans résultat. Alors comment se débarrasser maintenant de l'amertume? Car c'est ça le plus important, n'est-ce pas? Comment s'en débarrasser? Comment détruire ce géant de l'amertume? Premièrement, nous devons réaliser que l'amertume est un péché. Voilà un premier point très important. Éphésiens chapitre 4, verset 30, nous l'avons lu, que toute amertume disparaisse du milieu de vous. C'est un péché que nous devons faire disparaître dans nos vies, dans nos maisons, dans l'église, partout où nous sommes, n'est-ce pas vrai? C'est un péché. Et tant que nous ne voyons pas l'amertume comme un péché, il n'y aura pas de délivrance. Nous pouvons dire, ah, c'est ma faiblesse, c'est mon mauvais caractère, c'est mon tempérament, qu'est-ce que vous voulez, je suis comme ça, c'est mon tempérament. Non, parce que tant que nous raisonnons comme cela, nous nous justifions, n'est-ce pas? Nous pouvons dire, moi j'ai ce tempérament-là, et toi t'as autre chose. Autrement dit, moi je peux rester avec mon petit problème, c'est rien, c'est un défaut, une faiblesse. Mais en ayant une telle attitude, est-ce qu'on en est délivré? Jamais. Jamais. C'est comme avec d'autres péchés. Par exemple, avec la cigarette. Combien de personnes essayent d'être délivrées de la cigarette? Mais ils ne réalisent pas que c'est un péché. Ils ne réalisent pas que le péché, la cigarette les détruit. Et tant qu'ils pensent que oh, la cigarette, c'est pas si grave que ça. C'est pas grave, c'est rien. Mais on n'en est pas délivré. Mais quand nous commençons à voir que c'est un péché, alors les choses changent. Mes amis, l'amertume, c'est un péché. Et le péché détruit toujours. Le péché détruit toujours. Nous devons voir ces choses comme cela. Et le péché est semblable à un serpent. Vous savez, le péché, c'est comme un serpent. Est-ce que vous laisseriez un serpent vivre dans votre maison et vous dormir tranquillement? Qui serait ici capable de dormir tranquillement dans sa maison quand il sait qu'il y a un serpent? Personne. La première des choses que vous faites, c'est impossible. Vous allez dire, je ne peux pas dormir, c'est impossible. Il faut que ce serpent soit tué. Et après, je pourrai dormir. Le péché, c'est comme un serpent. Nous devons le détruire. Et alors, nous serons tranquilles et nous serons dans la paix. C'est un péché. Première chose que nous devons réaliser. Sinon, nous allons tout le temps nous justifier. Si Dieu voit la chose comme un péché, je dois aussi voir cela comme un péché. Et non pas comme une faiblesse en disant, voilà, tout le monde a ça. C'est tout le monde qui a ça. Si vous voulez, faut pas exagérer, n'exagérez pas, frère. C'est tout le monde a ça. Alors voilà. Alors on continue de s'empester, on continue de s'empoisonner, on continue de détruire autour de nous. Non, c'est un péché. Alors les choses deviennent sérieuses à ce moment-là. Vous êtes d'accord avec moi? C'est cela. Première chose. Deuxièmement, reconnaître notre propre amertume. Psaume 32, verset 3, avec David. Il ne faut pas seulement reconnaître que l'amertume est un péché, mais que mon amertume est un péché. Il faut en arriver à dire, c'est mon amertume qui est un péché. Ce que j'ai fait moi est un péché, pas l'amertume en général. Vous êtes d'accord avec moi? Psaume 32, verset 3. Je vais lire ce passage. Un passage très intéressant. Voici ce que David dit. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Autrement dit, tant qu'il ne voulait pas reconnaître que lui-même avait un problème, il n'y avait pas de délivrance possible. Avec Dieu, il ne faut pas en rester à des généralités. « Oh, je sais que le vol, c'est mauvais. Je sais que l'amertume, c'est mauvais. Je sais que mentir, c'est mauvais. Je sais tout cela, mais ce n'est pas suffisant. Je dois juger cela dans ma vie. Je dois être intransigeant avec moi-même. Il y en a qui sont intransigeants avec les autres, mais quant à eux-mêmes, ils laissent tout passer. » Ça, avec les autres. Oui, je connais bien ton cas. Très dur avec les autres. Mais eux-mêmes, qui ont le même problème, on laisse passer. Pas si grave que ça. C'est bon, tout va bien, tout va bien. Mais quant aux autres, comment ? Ça va pas du tout. Ça peut pas durer. Et puis pour soi-même, tout va très bien. Tout va bien. Pas de problème. Mais quand on le voit chez les autres, on est insupportable, intransigeant. Mes amis, l'intransigeance doit commencer avec nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est avec nous-mêmes que ça doit commencer l'intransigeance. Et après, on sera peut-être moins dur avec les autres. Mais l'intransigeance commence avec soi-même. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient en moi. Nous devons reconnaître notre problème personnel. Amen. Il faut une grande honnêteté avec Dieu. Pas rester dans les généralités, sinon nous n'en sortons pas. Nous n'en sortons pas. Troisièmement, se repentir de son amertume. Psaume 32, verset 5. Après, il est dit, « Je t'ai fait connaître mon péché. » Voyez-vous, 32, verset 5. « Je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » Et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Alléluia. J'ai dit, j'avouerai. Voyez-vous, le courage, l'humilité de dire, je me suis trompé. De dire que j'ai fait mal. Que j'ai eu la mauvaise attitude. Et c'est alors que David dit, et tu as effacé la peine de mon péché. Alléluia. Il faut le reconnaître. Et quand on le reconnaît sincèrement, en se repentant de tout son cœur, alors Dieu pardonne, Dieu purifie et nous regarde comme si nous n'avions jamais péché. Alléluia. Mais tant que nous ne le reconnaissons pas et tant que nous ne voulons pas changer nous-mêmes, les autres ne changeront pas non plus. Bien souvent, nous attendons que les autres changent. Mais Dieu dit, c'est par toi que ça doit changer. Si toi, tu changes, les autres pourront changer. Intransigeant à l'égard de soi-même, voilà ce que Dieu nous demande. Quatrièmement, se rappeler que Dieu contrôle toutes choses. Il est bon aussi de savoir cela. Que Dieu est au-dessus de tout. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu finalement contrôle toute chose et qu'il va utiliser ce problème dans ta vie pour te faire du bien. Si tu es assez humble pour reconnaître ta faute et si tu veux t'en repentir, il peut changer ce mal en bien. Quand nous lisons l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Joseph. Ses frères l'ont vendu, n'est-ce pas? Ils sont moqués de lui, ils l'ont vendu pour aller en Égypte. C'était triste, c'était tragique. Comment a réagi Joseph? C'est très important. Comment a réagi Joseph? Ses frères l'ont rejeté. Genèse chapitre 45, verset 8. Nous allons voir là comment Joseph a réagi. Genèse 45, verset 8. Voici ce qu'il est dit.
Voici, c'est Joseph qui parle à ses frères. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et un peu au-dessus, il est dit au verset 4, « Approchez-vous de moi » en parlant à ses frères. Ils s'approchèrent. Et il dit, « Je suis Joseph » quand il se fait connaître à ses frères, n'est-ce pas? Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous m'avez vendu pour être amené ici en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. » Alléluia! Et il en a fait un gouverneur en Égypte. Et là, en tant que gouverneur en Égypte, Dieu lui a montré qu'il devait faire des grandes récoltes de blé parce qu'une grande famine allait venir dans tous les pays aux alentours. Et c'est ainsi qu'il fallait que Dieu trouve quelqu'un qui accepte d'être rejeté, d'être humilié, d'être incompris et de faire confiance à Dieu. Et c'est pourquoi Joseph a dit, mais ne vous effrayez pas. Finalement, c'est vrai que vous m'avez fait du mal, mais c'est finalement Dieu qui m'a envoyé ici. Parce que c'était pour vous sauver la vie. Finalement, c'était pour votre bien et pour mon bien aussi. Voyez-vous? Comment être délivré de l'amertume? En réalisant que finalement, Dieu est au-dessus de tout. Il peut changer le mal en bien si nous lui faisons confiance. Les hommes peuvent te faire du mal, mais si tu fais confiance à Dieu, Dieu peut changer ce mal en bien dans ta vie. Il peut l'utiliser pour que tu sois toi béni et en bénédiction aux autres. Mais bien sûr, sur le moment, tu ne comprends pas, comme Joseph n'a pas compris. Certainement qu'il a eu des combats quand on l'a jeté au fond d'un puits et qu'il était là tout seul dans un puits, dans le désert. Il devait se dire, oh Dieu, tu m'as abandonné complètement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regarde la haine de mes frères. Je suis seul, abandonné de tous. Ma vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Prends ma vie, quel que je meure. Mais Joseph a persévéré. Il a cru que Dieu était au-dessus de tout. Et que si les hommes lui avaient fait du mal, Dieu pouvait changer ce mal en bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et un deuxième verset, Genèse 50, verset 20 cette fois, toujours avec Joseph, Genèse 50, verset 20, c'est le dernier chapitre de la Genèse, et là on voit les dernières paroles de Joseph à ses frères. Voici ce qu'il est dit. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, au verset 18, et lui dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, c'était ses ennemis, ceux qui lui avaient fait du mal, ne l'oubliez pas. Et Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Alléluia! C'est lui maintenant qui les console. Lui qui avait besoin d'être consolé par les autres. C'est lui qui les console. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que finalement, même derrière la méchanceté de l'homme, Dieu a un plan. Si ta vie est entre les mains de Dieu, tu n'es plus esclave de la méchanceté des hommes. Même si les hommes te font du mal, mais si tu fais confiance à Dieu, Dieu changera ce mal en bien et il utilisera tout cela pour ton bien et pour le bien des autres. Amen. Allons un peu plus loin. Cinquièmement, comment surmonter cette amertume? Nous devons réagir à l'offenseur dans un esprit de pardon. Éphésiens 4, 32, comme nous l'avons lu tout à l'heure donc. Pardonnez-vous mutuellement. Il n'y a que le pardon et un pardon sincère. Je pardonne le mal que tu m'as fait. Non pas un pardon conditionnel, je te pardonne, mais à condition que tu mettes ceci, 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 ceci en ordre. Non. Si on vous a fait du mal, vous devez pardonner le mal qu'on vous a fait. Sans condition. Et vous savez, il y en a qui pardonnent d'une drôle de façon. Il y en a qui pardonnent et finalement vous font sentir que c'est vous le coupable. Vous avez l'impression, vous pardonnez au mal qu'on vous a fait, et finalement, d'après leur réaction, c'est finalement vous qui êtes le coupable. Et c'est pourtant eux qui vous ont fait du mal. Ce n'est pas cela, pardonner. Pardonner, c'est reconnaître tout simplement qu'on n'a pas eu la bonne réaction à l'égard de la personne, n'est-ce pas vrai? Un point, c'est tout. Si l'autre a fait du mal, eh bien, c'est sa responsabilité devant Dieu. Mais notre pardon à nous doit être sans condition. On doit lui dire « je te pardonne ». Et non pas lui faire sentir que, finalement, lui aussi est en faute. Lui aussi, il a fait quelque chose de mal. Lui aussi, ceci. Non, c'est plus le vrai pardon, cela. Le vrai pardon est sans condition. Je te pardonne le mal que tu m'as fait, un point, c'est tout. Si l'autre a fait du mal, il s'en occupera devant le Seigneur. Le Seigneur s'en occupera. Amen. Mais l'important, c'est d'avoir la bonne attitude quant au mal qu'on nous a fait. Non pas un pardon en rechonnant, en accusant encore indirectement. Ce n'est pas ça le vrai pardon. Je te pardonne le mal que tu m'as fait, c'est tout, sans aucun reproche, sans rien du tout. C'est ça le vrai pardon. Amen. Ça, c'est le vrai pardon. C'est cela qui libère. Non pas faire sentir à l'autre, « Oui, je te pardonne, mais hein, si tu n'avais pas fait tout ça, ben, ça aurait été un peu mieux. Hein. Si tu ne m'avais pas envoyé promener, hein, si tu ne m'avais pas humilié, hein, ben, ça aurait été différemment. Je te pardonne quand même, hein, je te pardonne, d'accord. Allez, pardonne-moi. Oulala, pardonne-moi. Baby, allez, pardonne-moi. Hein. Qu'est-ce que c'est cette histoire de demander pardon? C'est l'autre qui attrape tout sur la tête. C'est l'autre. Alors finalement, l'autre s'en va en disant « qu'est-ce que c'est que ça ?» En me demandant pardon, c'est moi qui finalement, je reçois tout sur la tête. Qu'est-ce que c'est que ce pardon? Ce n'est pas un vrai pardon. Sixièmement, combien de temps? Sixièmement, comment surmonter l'amertume? Nous devons réagir aussi en surmontant le mal par le bien. Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Voilà comment vous pouvez, et je peux aussi surmonter mon amertume. Non pas en disant « Oh Seigneur, Seigneur, délivre-moi de mon amertume ». Ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Il faut obéir. Ce n'est pas en disant « Priez pour moi pour que mon amertume s'en aille ». Ça ne va pas partir comme ça. Ça ne peut pas partir. Ce n'est pas comme ça que ça part. Dieu ne veut pas qu'on appuie sur un bouton. Non, c'est parti. Mon amertume est partie. Terminé. Mais il y en a beaucoup qui pensent que c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Priez pour moi, c'est terminé. Et puis encore, si on prie pour eux et que rien ne se passe, ils vont dire ah oui, mais vous n'avez pas cette foi. Encore oui, on prie pour eux pour les aider, et puis c'est encore nous qui sommes là, parce qu'ils sont fautifs. Parce qu'on n'a pas prié avec assez de foi. Ils vont nous dire même tu aurais dû jeûner, tu n'as pas assez jeûné encore. On veut faire du bien encore, c'est nous qui recevons tout. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu veux être délivré de ton amertume, c'est pas seulement en priant comme ça. Il faut surmonter le mal par le bien. On t'a fait du mal, mais maintenant, tu dois aussi surmonter ce mal en faisant du bien. Romains 12. Je vais lire encore ce passage. Romains 12. Un passage très important. 12, verset 17. « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec les hommes. Ne vous vengez point vous-même. » Bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, voyez-vous, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Alléluia. La réaction doit être maintenant « Je t'ai pardonné, et maintenant ?» Suite au mal que tu m'as fait, moi je vais te faire du bien maintenant. Voilà, je vais te faire du bien. Voilà. Vous n'allez pas attendre que l'autre vous demande de faire du bien. Vous allez le faire. L'autre va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Je lui ai fait du mal et il me fait du bien. Voilà. C'est ce qui va délivrer l'autre, mais c'est ce qui va surtout vous délivrer vous-même. C'est très important pour vous-même de surmonter le mal par le bien. Et je termine. Septièmement, pour être délivré de l'amertume, nous devons être continuellement remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et les fruits de l'Esprit, Galates 5, 22, 23, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ces 9 fruits de l'esprit, si nous en sommes remplis, il n'y a plus de place pour l'amertume, vous êtes d'accord avec moi? Si on a de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, si on a ces 9 fruits qui se manifestent, il n'y a plus de place à l'amertume dans notre vie. Amen. D'où l'importance d'être rempli du Saint-Esprit, de la parole de Dieu et d'obéir à cette parole. Alléluia. Mes amis, le géant frappe à ta porte, mais tu peux le fracasser et le détruire au nom de Jésus en te soumettant à sa parole et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.